Galates stupides, qui a pu vous fasciner alors que sous vos yeux Jésus-Christ a été dépeint crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en vertu des œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou parce que vous avez entendu le message de la foi? Êtes-vous donc stupide à ce point? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant achever par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Si du moins c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc en vertu des œuvres de la loi ou parce que vous avez entendu le message de la foi? Ainsi Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, voyant d'avance que Dieu justifierait les non-juifs en vertu de la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui relèvent de la foi sont bénis avec Abraham, l'homme de foi. Tous ceux, en effet, qui relèvent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque ne persévère pas en tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le faire. » Et que personne ne soit justifié devant Dieu par la loi, c'est évident, puisque celui qui est juste en vertu de la foi vivra. Or la loi ne relève pas de la foi, mais elle dit « Celui qui fera ces choses vivra par elles. » Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois », afin que pour les non-juifs, la bénédiction d'Abraham soit en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions l'Esprit promis.
En 2002 est sorti le film « Goodbye Lenin » que sans doute plusieurs ont vu à l'époque, ceux qui avaient l'âge, et qui nous parle d'une... Ce film nous parle d'une femme qui est tombée dans le coma quelques mois avant la chute du mur de Berlin. Une femme qui habite à Berlin avec son fils. Et plusieurs mois plus tard, elle se réveille et entre-temps, le mur est tombé. La ville a complètement changé, l'Allemagne a changé, le monde même dans un sens a changé. Les médias ne sont plus les mêmes, les voitures ne sont plus les mêmes, le paysage change à vue d'œil. Et son fils a peur qu'elle ressente un choc émotionnel trop intense alors qu'elle vient de se réveiller du coma. Et donc il décide de ne pas lui révéler que le mur est tombé et de créer autour d'elle, dans le petit appartement, pendant qu'elle est en convalescence, un univers qui serait resté encore totalement est-allemand. Et donc pendant quelques semaines, il va vivre avec sa mère dans le passé, comme si rien n'avait changé, comme si on en était encore au temps de la RDA. Et dans le texte de ce soir, on fait face à quelque chose d'analogue. Tout a changé dans la vie des chrétiens de Galatie, tout a changé, mais ils font comme si ça n'avait pas changé. Ils continuent à vivre comme s'ils étaient dans le déni. Et en fait, en parlant de déni, ce texte nous parle d'un triple déni, et ça sera nos trois points. Un déni de la croix, un déni du Saint-Esprit et un déni de la promesse. Donc on va voir d'abord un déni de la croix. Alors vous avez peut-être remarqué en écoutant le texte que Christelle nous a lu, que l'apôtre Paul commence, il y va à fond dès le début, il ne mâche pas ses mots, Galates stupides, ou autre traduction, insensé. Ce qui convient peut-être un peu mieux, il n'est pas en train de les insulter, mais il veut leur montrer qu'ils ont perdu la raison. Alors qu'est-ce qui met à ce point Paul hors de lui? On a déjà eu l'occasion d'en parler au cours des dernières semaines, mais on va voir ce que ce texte nous dit et comment ce texte explique cette réaction aussi vigoureuse de l'apôtre Paul. L'apôtre commence par dire, au verset 1, que Jésus-Christ a été dépeint crucifié sous leurs yeux, sous les yeux des Galates. Façon de parler un peu surprenante. L'apôtre Paul semble vouloir dire par là que la mort de Jésus à la croix est tellement au centre de l'enseignement que lui, l'apôtre, a apporté et que d'autres ont apporté aux Galates, c'est tellement au cœur de l'enseignement que c'est comme si on avait dépeint devant les Galates, comme si on avait représenté visuellement la mort de Jésus pour eux. C'est comme si, presque, comme si les Galates avaient vu de leurs yeux Jésus crucifié. En tout cas, c'est une manière de comprendre ce que Paul veut dire là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il veut commencer en parlant de la croix tout de suite. Et on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que d'emblée, l'apôtre Paul parle de la croix? Eh bien, justement parce que pour lui, la croix a tout changé. Alors, il faut rappeler ici que depuis quelque temps, les Galates, donc les chrétiens de Galatie, une province qui sur le territoire de l'actuelle Turquie, province romaine à l'époque, les Galates adhèrent depuis quelque temps à un enseignement qui met l'accent sur la nécessité d'obéir à la loi de Moïse. Alors, les Galates n'étaient pas juifs, en tout cas pas dans leur majorité, mais ils s'étaient laissés persuader qu'ils devaient se soumettre à certains aspects essentiels de la tradition du judaïsme, notamment la circoncision pour les hommes, mais aussi des règles alimentaires notamment. Donc les Galates se sont laissés persuader qu'il leur manquait quelque chose. Ils avaient placé leur foi en Jésus, c'est à des chrétiens, en tout cas à des gens qui confessent être chrétiens, que Paul écrit. Ils avaient placé leur foi en Jésus, mais apparemment ils estimaient qu'ils n'étaient pas encore assez purs. Il fallait qu'ils se plient à des règles alimentaires, à la circoncision, à d'autres rituels, pour pouvoir faire pleinement partie du peuple de Dieu, pour pouvoir être considérés comme purs aux yeux de Dieu. Et pour Paul, c'est un déni de la croix. C'est comme si Jésus n'était pas mort. Pourquoi ? Eh bien, voyons ce qu'il explique un petit peu plus loin au verset 10. « Tous ceux, en effet, qui relèvent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque ne persévère pas en tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le faire. » Qu'est-ce que Paul dit dans ces quelques mots ? Une image, petite image qui peut peut-être nous aider à le comprendre. J'ai vécu un peu moins de deux ans au Liban quand j'étais ado, en gros, et j'ai appris un petit peu d'arabe, mais vraiment très peu. Et le peu que j'ai appris à l'époque, la plupart, je l'ai oublié, et je m'en souviens de presque plus rien aujourd'hui. Alors, je peux dire des choses du genre « Comment ça va ? Bonjour ? Je veux manger, s'il te plaît ?» Voilà, des choses essentielles de la vie quotidienne. Alors maintenant, imaginez que sur la base de ces quelques phrases que je baragouine en arabe, j'écrive sur mon CV, maîtrise l'arabe, et qu'un jour, je sais pas, dans un entretien, on me demande de parler arabe, ça va être très 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 compliqué. Parce qu'en fait, j'ai prétendu maîtriser quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Et ce que Paul dit aux Galates ici, c'est que s'ils croient qu'en se faisant circoncire et en se privant de quelques aliments, ils vont obéir à la loi, ils se trompent lourdement. Et c'est pas parce qu'ils sont non-juifs. On l'a vu la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, et c'est redit à nouveau dans le texte de ce soir, personne, juif ou non, ne peut être trouvé juste aux yeux de Dieu en vertu de son obéissance à la loi. Au chapitre 2, verset 16, qu'on a vu dimanche dernier, c'était explicite. Personne ne peut prétendre être en règle devant Dieu sur la base de l'obéissance à une quelconque loi d'ailleurs, mais pas même la loi de Moïse, cette loi que pourtant Dieu a révélée dans l'Ancien Testament. Alors, est-ce que ça paraît trop sévère ou trop pessimiste ? Une manière simple de comprendre cette impossibilité d'obéir à la loi, d'être trouvé obéissant à la loi, c'est de voir comment Jésus lui-même a résumé la loi de Moïse. Dans l'évangile de Marc, par exemple, chapitre 12, versets 28 à 31, Jésus cite ces deux commandements qui, pour lui, résument l'essentiel de cette loi. Et voilà ce que dit Jésus. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc, c'est tiré de Deutéronome, chapitre 6, verset 5. C'est un commandement qui, pour Jésus, résume beaucoup des commandements de la loi de Moïse. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Est-ce que quelqu'un ici pourrait dire « Bah oui, je pense que j'aime Dieu de tout mon cœur, vraiment de toute mon âme, de toute ma force. Je suis pleinement mobilisé à chaque instant par l'amour de Dieu. Je ne pense qu'à ça. Il ne manque rien à mon amour pour Dieu. Non, je crois que je suis dans les clous. Il n'y a pas de problème. » Est-ce que quelqu'un ici oserait dire ça ? Et Jésus poursuit. Lévitique 19, verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, tu accorderas autant d'importance au bien-être de l'autre qu'au tien. Qui peut prétendre réussir à vivre ainsi ? Nous y aspirons, je l'espère. Nous tendons à cela, nous essayons de tendre à cela. Mais qui peut prétendre être en règle avec ces deux commandements-là, qui résument selon Jésus l'ensemble de la loi de Moïse? Et là, on commence à comprendre pourquoi Paul parle de malédiction de la loi. Ce n'est pas parce que la loi est mauvaise en elle-même. Au contraire, la loi de Dieu est parfaite, mais l'homme ne l'est pas. L'homme pécheur ne l'est pas. Et le fait est que nous ne parvenons pas à obéir à cette loi. Alors, on peut obéir à certains commandements et on peut y obéir partiellement, un peu comme « je parle arabe », entre guillemets. Effectivement, personne ici n'a transgressé tous les commandements qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Mais la réalité, c'est que si nous nous mesurons à la loi de Moïse, et plus largement aux commandements de Dieu dans toute sa parole et dans toute leur force, on sera toujours trouvé en faute. On n'arrivera jamais à s'en sortir si c'est là qu'est placée notre espérance pour plaire à Dieu et pour être trouvé valable et juste devant lui. Et Paul n'hésite pas à parler de malédiction. Mais c'est là que la croix a tout changé. Verset 13, regardons ce que l'apôtre écrit. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Le langage de Paul est incroyablement fort ici. Jésus est devenu malédiction pour nous. Ce que l'apôtre Paul veut dire par là, c'est que Jésus a accepté à la croix de revêtir notre péché, toutes nos transgressions, tous nos manquements à la loi de Dieu, au point d'être dans un sens identifié à notre péché. Aussi stupéfiant que ça puisse paraître, Dieu a choisi de concentrer sur son Fils, Jésus, toute sa condamnation contre nos offenses à son égard. Tout ce qui nous rend impurs, tout ce qui nous rend indignes, tout ce qui nous rend coupables, eh bien tout cela, Jésus en a payé le prix. Et il ne nous reste qu'à recevoir ce don qui nous est fait par la foi. Et celui qui croit, qui place sa confiance en Jésus en reconnaissant que Jésus a entièrement réglé sa dette envers Dieu, eh bien Dieu le justifie, c'est-à-dire qu'il le déclare en règle, en paix avec lui. Et donc, juifs, non-juifs, peu importe, les uns comme les autres n'ont aucune chance d'être en règle avec Dieu par leurs propres efforts, mais les uns comme les autres sont invités à saisir la grâce accomplie par Jésus-Christ. Voilà l'évangile, la bonne nouvelle, et voilà pourquoi Paul réagit aussi fortement lorsque les Galates croient devoir accomplir des œuvres rituelles ou traditionnelles pour pouvoir être trouvés purs, pour pouvoir être dignes de faire partie du peuple de Dieu. Mais pour l'apôtre Paul, c'est comme retourner en RDA après la chute du mur, se créer un environnement qui nous rappelle le passé. C'est du déni et c'est de la folie. Et ça revient à dire que Jésus est mort pour rien. Un déni de la croix. Donc, mais Paul affirme aussi que c'est un déni du Saint-Esprit qui a commencé son œuvre dans la vie des Galates. Et ça sera notre deuxième point, un déni du Saint-Esprit. On a déjà vu avec quelle vigueur l'apôtre Paul reprend les Galates. Galates stupides, qui vous a fasciné? Mais Paul, après leur avoir prononcé cette parole tellement forte, on voit qu'il veut raisonner avec eux. Verset 2, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en vertu de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou parce que vous avez entendu le message de la foi ?» Et un peu plus loin au verset 3, « Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant achever par la chair ?» Par la chair, c'est-à-dire ici dans le contexte, les ressources de l'homme livrées à lui-même, les ressources propres que l'homme trouve en lui. Pour bien comprendre ce que Paul veut dire ici, il faut revenir en fait à l'Ancien Testament. Et notre Paul, Harrison, nous a parlé tout à l'heure de Genèse 12 et on y reviendra. Mais on va revenir notamment à un passage du prophète Jérémie qui annonce une nouvelle ère à venir dans la relation de Dieu avec son peuple. Voici ce qu'annonce Dieu dans ce texte, qui a été écrit donc bien des siècles avant Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 31. « Bientôt, déclare le Seigneur, je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas, cette alliance, comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Celle-là, donc la loi de Moïse, ils l'ont rompue Et pourtant, c'est moi qui étais leur maître, dit le Seigneur. Mais voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël, déclare le Seigneur. J'inscrirai mes instructions non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Un autre prophète, le prophète Joël, parle lui aussi de cette nouvelle ère. Et ici, dans ce texte de Joël, Dieu promet qu'il donnera à son peuple son esprit, qu'il va entrer dans une relation personnelle, intime, directe avec tous ceux qui ont placé leur foi en lui. On va lire ce texte également. Joël, chapitre 3. Par la suite, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des rêves à vos vieillards et par des visions à vos jeunes gens. Même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Alors quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Donc on voit que les prophètes de l'Ancien Testament, on aurait pu citer d'autres textes encore, ils annonçaient une nouvelle ère dans laquelle Dieu se ferait connaître personnellement de son peuple. Et dans le texte de Jérémie, on voit que le peuple ne sera plus soumis à une loi gravée sur des pierres, donc une référence à la loi de Moïse qui a été gravée sur des pierres, mais le peuple aura une loi gravée dans sa conscience, un désir de faire ce qui plaît à Dieu, un désir qui vient du plus profond de l'être. Or, Dieu a tenu sa promesse. Quelques semaines après la résurrection de Jésus, comme il l'avait promis et comme Jésus lui-même l'a promis à nouveau, eh bien Dieu a envoyé son esprit pour qu'il se saisisse de la vie de tous ceux et celles qui ont placé leur confiance en Jésus. Et pour Paul, c'est une raison de plus pour laquelle l'attitude des Galates, elle est stupide, insensée, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Le verset 5 nous dit même qu'ils ont assisté à certains miracles opérés par le Saint-Esprit. Mais de façon encore plus essentielle, Dieu a pris possession de leur vie par son Saint-Esprit. Il a commencé déjà à les transformer de l'intérieur, à renouveler leur esprit et leur volonté. Et c'est ça qui rend d'autant plus absurde leur retour en arrière. Mes tout premiers échanges avec Talia, qui est devenue ma femme, ceux qui viennent au culte du matin la connaissent, ces premiers échanges étaient par email. Voilà, pas très original, mais une amie commune nous avait mis en contact parce que Talia allait venir en France pour la première fois. Et au départ, ma mission était simple, c'était de lui donner des conseils pratiques sur son arrivée en France. Je suis allé un petit peu au-delà, mais c'était ça la mission. Ce qui devait arriver arriva et on a commencé à parler de choses plus personnelles. Au début, c'était par email et le courant passait bien. Alors maintenant, je fais une avance rapide. 2 ans et demi plus tard, notre mariage. Imaginez qu'après le mariage, j'ai dit à ma femme, écoute, voilà, on est mariés, voilà un ordinateur. Moi, je vais aller m'asseoir dans cette pièce, tu vas aller là. Et puis, je propose qu'on se remette au courriel, qu'on se remette au mail. Finalement, ça, c'était pas mal. Je vous rassure, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais ce que Paul reproche aux Galates, c'est un petit peu ça. La loi de Moïse, c'est un moyen institué par Dieu. C'était un moyen institué par Dieu avant la venue de Jésus, pour aider les Israélites à avoir le désir de connaître Dieu, à apprendre des choses sur lui, à lui faire confiance. Mais le grand jour est arrivé, ce jour qu'annonçaient les prophètes. Après la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a envoyé son esprit pour inviter chacun à le connaître directement, personnellement, intimement. Et par conséquent, on peut dire que la mission de la loi était accompli, achevé. Ce n'est plus la peine d'essayer de comprendre en tâtonnant qui est Dieu par l'obéissance aux commandements et aux rituels de la loi de Moïse, parce qu'on peut avoir dans sa vie la présence personnelle et immédiate de Dieu par son esprit. Comment imaginer que les Galates, qui ont vécu cette expérience transformatrice, puissent maintenant dire « Ah bah, on aimerait bien revenir à la loi ». On pense que c'est important de se faire circoncire, d'obéir aux lois alimentaires pour être digne de connaître Dieu. Ce n'est pas tant le fait en soi que certains aient eu l'intention de se faire circoncire ou de s'abstenir de tel aliment. En tant que tel, ce n'est pas tellement ça qui posait problème à Paul, mais le fait qu'il croyait qu'il devait faire cela pour être digne de connaître Dieu. En cherchant à être justifié devant Dieu par l'obéissance à la loi de Moïse, les Galates sont dans le déni de la croix, on l'a vu, mais donc ils sont aussi dans le déni du Saint-Esprit. Et ils font preuve d'un troisième déni, sera notre dernier point, un déni de la promesse. Vous avez remarqué qu'il est plusieurs fois question d'Abraham dans ce passage. Alors pour comprendre pourquoi l'apôtre Paul en parle, il faut revenir des siècles en arrière. La Genèse nous raconte comment Dieu a appelé Abraham, un homme païen à l'origine, et l'a envoyé dans un pays étranger, qu'on appelle aujourd'hui Israël, pour qu'il y fonde un nouveau peuple avec lequel Dieu s'est lié par alliance. Et Dieu, on l'a vu dans la présidence tout à l'heure, Dieu promet à Abraham qu'il aura une descendance et que cette descendance serait le peuple de Dieu. Alors, dans l'immédiat, enfin dans les siècles qui ont suivi, physiquement parlant, c'est le peuple d'Israël qui est descendu d'Abraham. Et de fait, c'est avec Israël que dans un premier temps, Dieu a conclu une alliance autour de la loi de Moïse. Mais quand Dieu adresse à Abraham cette promesse de la descendance, il ajoute, et là encore on l'a vu tout à l'heure, Genèse 12, verset 3, « Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Et c'est capital de souligner ces quelques mots, parce que ça veut dire que Dieu a toujours prévu et annoncé que ce n'était pas seulement le peuple d'Israël qui serait son peuple, mais qu'un jour, des hommes et des femmes de toutes les nations deviendraient eux aussi son peuple et hériteraient de cette promesse faite à Abraham. Alors, vous vous demandez peut-être quel rapport avec les Galates, tellement de siècles plus tard. Eh bien, l'apôtre Paul veut montrer aux Galates qu'en voulant se soumettre à la loi de Moïse, non seulement ils ont oublié la croix, ils ont oublié le Saint-Esprit, mais ils ont oublié aussi cette promesse de Dieu. Et c'est ce que nous dit le verset 8. « Aussi l'Écriture, voyant d'avance que Dieu justifierait les non-juifs en vertu de la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui relèvent de la foi sont bénis avec Abraham, l'homme de foi. » Et donc si les non-juifs, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans le contexte de Paul, si les non-juifs peuvent connaître Dieu aujourd'hui, ce n'est pas en devenant juif, mais c'est en saisissant par la foi ce salut qui leur est promis à eux aussi, depuis des siècles. Les non-juifs, eux aussi, étaient les destinataires des promesses de Dieu. Et Dieu a tenu cette promesse de A à Z en envoyant Jésus pour effacer tout ce qui nous condamnait à ses yeux, en envoyant son esprit pour nous transformer et nous habiter, en annulant par conséquent tout ce qui pouvait différencier à ses yeux les hommes entre eux. Je ne sais pas si vous aviez comme moi, ceux qui n'étaient pas très bons en sport, moi ça n'a jamais été mon truc, la hantise des cours de PS, des cours de sport où on désigne quelqu'un pour choisir l'équipe. Et là il dit, ouais, toi tu viens, toi non, toi tu vas attendre, t'as deux mains gauches. Toi, tu viens, toi, on verra tout à l'heure. Un moment de souffrance, quand on est ado surtout. Ce n'est pas comme ça que Dieu choisit son peuple. Et qu'est-ce que c'est bien de le savoir. Dieu nous accorde sa faveur, il nous accorde une place auprès de lui, au nom du sacrifice que Jésus-Christ a librement consenti pour effacer toutes nos fautes, pour nous réconcilier avec Dieu. Et donc l'expérience transformatrice de la grâce de Dieu, elle met tous les êtres humains à égalité. Et c'est pour ça qu'il est insupportable de laisser entendre que certains êtres humains seraient plus proches de Dieu que d'autres en raison de leur arrière-plan. Peut-être que certains parmi nous estiment, inconsciemment peut-être, qu'ils ont leur place auprès de Dieu parce qu'ils ont vécu une vie réglo, ils ont grandi dans la foi chrétienne, ils ont toujours été sensibles au message de la Bible d'une façon ou d'une autre. Et puis il y en a d'autres qui viennent de complètement ailleurs, qui viennent peut-être de familles ou d'arrière-plan où on ne parlait jamais de Dieu et de Jésus. Vraiment pas. Certains ont sans doute vécu des choses qui sont très loin de ce que la Bible enseigne. Et peut-être que vous vous demandez aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment ma place dans cette église, par exemple, 72 rue de Sèvres, où il y a pas mal de gens qui ont l'air quand même bien comme il faut. La réalité, c'est que nous avons tous le même besoin de la grâce de Dieu, de son pardon inconditionnel, de son esprit qui habite en nous. Certains sont bardés de diplômes, parmi nous ont un travail très, très reconnu, d'autres ont une profession dite modeste. Certains ont peut-être une apparence, une personnalité immédiatement attrayante, fédérateur. D'autres sont peut-être plus discrets, ne se font pas spécialement remarquer, peut-être même mettent un peu mal à l'aise. Certains s'expriment très bien dans un français limpide. D'autres butent sur les mots, soit parce qu'ils n'ont pas cette facilité d'expression ou bien parce qu'ils apprennent le français. Certains ont des moyens financiers, pas de problème, tandis que d'autres peut-être ne savent pas comment ils vont terminer la semaine sur le plan financier. Mais sans Jésus, nous serions tous aussi perdus les uns que les autres. Et donc que Dieu nous garde de chercher à trouver notre valeur dans nos efforts ou dans notre arrière-plan, plutôt que dans sa seule grâce. Je vous invite à prier. Nous voulons te remercier, notre Dieu, pour ce message transformateur de ta grâce qui nous met tous à égalité devant toi, qui nous permet de prendre conscience de notre besoin absolu de toi. Et Père, je te prie pour que nous puissions ne pas avoir la folie de croire, comme les Galates ont cru, en tout cas pour un temps, qu'ils devaient accomplir des choses pour pouvoir être purs à tes yeux, pour pouvoir être acceptés autrement qu'en Jésus-Christ. Garde-nous de cela, Père. Garde-nous aussi de cette tendance à mettre des barrières entre nous. Donne-nous de pouvoir vivre les uns avec les autres dans l'humilité qui vient de ce que nous savons, pauvres pécheurs, pardonnés. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui sont parmi nous et qui n'ont pas encore reçu ce pardon que tu leur proposes, que tu leur offres, qui par la foi ne l'ont pas encore reçu. Je te demande, Seigneur, de permettre, toi qui es souverain sur la vie de chacun, qu'il ne tarde plus et qu'il vienne à toi. Attire-les, Seigneur, par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.